Salut mes pinceaux et de retour, on nous a enterrés, j'ai eu des plaintes, tu sais que j'ai eu des plaintes Roger.
Déjà en une semaine, alors là je suis un peu sidéré. Oh. Et ouais, c'est la semaine dernière qu'on n'a pas fait d'émission seulement.
Ouais, ben, y a des gens qui râlent.
Oh mon Dieu.
On a des followers, mec.
Ah, bien, mais ça fait plutôt plaisir, mais ça nous fout la pression.
Ben oui.
Et puis, en ce qui me concerne, je suis plus si jeune que ça. Hein, c'est.
on a des attestations.
Ouais.
On a des attestations. Mais on est là. Plume et pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Avec aujourd'hui des lectures, parce que quand on n'est pas là, n'empêche qu'on pense à l'émission, on lit des trucs. On s'informe aussi, on va avoir quelques news, et puis on réfléchit à nos playlists, parce qu'on aime bien passer de la musique. Alors pour tous ceux qui nous croyaient morts, un petit morceau d'House of Pain. Increvable Everlast, increvable comme il nous le dit.
Ouais, tiens. Ouais. Un morceau avec une tonalité quand même un peu inquiétante.
C'est l'histoire de retour depuis les morts, Back from the dead.
Ouais, et ben c'est très inquiétant. Inquiétant comme la remarque de Sophia Chikirou. Vous connaissez Sophia Chikirou?
Oui, hélas, j'ai envie de dire.
Ouais, pardon. Hélas,
vous avez raison. Pas le dire, mais.
Vous avez raison de dire hélas. Donc, députée LFI, qui a déclaré: vous n'aurez pas votre haine, mais vous la méritez. été, a-t-elle lancé à la dessinatrice Coco, après la publication d'un dessin de la susdite Coco,
dans Libération, je crois.
Dans Libération. En plus, j'étais tombé dessus. J'achète pas Libération tous les jours, mais j'aime bien quand je prends le train. Et là, je prenais le train. Je rentrais de la pêche. C'était la grande marée, vous voyez.
J'aime bien acheter un journal quand je rentre.
Ouais, moi aussi. Et là,
Canard enchaîné très souvent.
J'achète le Libé du lundi et pan, il y a ce dessin. Je ne vais pas vous dire que c'est un dessin anodin. Je veux dire, c'est pas un dessin, on pourrait dire qu'on pourrait mettre devant un gamin de 12 ans sans qu'il le comprenne, effectivement. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est l'âge mental de la mère Chikirou. Parce que je ne m'explique pas. Donc ce dessin, il raconte quoi? On le mettra, je sais pas si on a l'autorisation de le mettre. En tout cas, les gens peuvent le retrouver. Vous mettez dessin de Coco, vous trouverez vite. Et on voit donc une maman qui est famélique. Elle a un trait qui se vilémise, si j'ose dire,
oui, puisqu'elle
a pris le relais de Monsieur Willem dans Libération.
Oui, oui, très juste.
Et effectivement, un trait de plus en plus dur. Et le dessin, c'est un dessin coup de poing, quoi. On voit donc cette mère visiblement affamée, avec deux gamins complètement affamés, et un troisième qui essaye de choper des rats. Et la maman qui dit à son gamin qui court après les rats, non, pas là, c'est Ramadan. Voilà. Et aussitôt, ça a été un flot de haine incroyable à l'encontre de ce dessin, l'accusant de dire du mal de l'islam, etc. Alors que même si ce dessin effectivement est trash, c'est un dessin coup de poing, on va pas se mentir, quoi. C'est
ça renvoie à Gaza. C'est,
bah ouais, ça renvoie à une situation tragique. Cette femme-là, cette autrice Coco, et elle-même, c'est ce que c'est que la violence, et c'est ce que c'est que tout ça, puisque c'est une rescapée des attentats de Charlie Hebdo. Elle aurait dû y passer. Elle aussi. Et donc, de ce fait, elle sait de quoi elle parle. Et là, en aucun cas, moi, en tout cas, quand je l'ai découvert, ce dessin-là, j'ai pris ce dessin pour une... Moi, ça m'a rappelé, de manière flagrante, le désespoir des Palestiniens, point. Avec une dose d'humour à la Willem, je vous dis, un trait qui se vilémise aussi, et c'est plutôt un compliment. Ben voilà, ça y est, je l'ai. Ben si, ben ouais, mais c'est un article que j'ai chopé.
Vous voyez, mais oui, je connais le dessin.
Vous l'aviez vu. Et et ça pose véritablement un problème, parce que la mère Chikirou, elle est quand même députée, qui plus est d'un parti de gauche, donc qui, à mon sens, devrait être tolérant. Et il fallait aller voir après les attentats, nous sommes tous Charlie, c'était à celui qui voudrait être, qui se bousculait pour être sur la photo. Et pouf, un dessin ne leur plaît pas. Aussitôt, scandale, hurli, hurlo. Et il y a un commentaire d'un internaute dans l'IB qui dit « Mais vous n'êtes même pas au pouvoir, mais qu'est-ce qui va nous arriver si la France insoumise arrive au pouvoir avec de pareilles réactions, avec de telles réactions ?» Et tout ça, c'est flippant et désespérant. Ça serait bien, effectivement, qu'elle parte en vacances à Mère Chikirou, loin.
Tant qu'on est un peu dans les affaires, les questions judiciaires, j'ai lu un article plutôt intéressant aussi qui revenait sur l'affaire Bastien Vivès, mais celle qui concerne Petit Paul, c'est-à-dire un de ses ouvrages. C'est un article intéressant de l'Observatoire de la liberté de création, l'OLC, qui a publié un communiqué où elle part d'une modification d'un article de loi, l'article 227-23 du Code pénal. Il y a une petite modification comme ça, un peu anodine en 98, mais au fait qui a des grandes conséquences, notamment dans l'affaire Bastien Vivès, dans le fait qu'il y a des questions de la liberté de création est mise un peu au pied du mur. Quand elle aborde des sujets qui peuvent être justement considérés comme choquants, car en fait, cette modification de l'article a fait comme si finalement le crime était imprescriptible, notamment quand il touche à des questions autour de la sexualité, l'enfance, etc. Parce que c'est ça qu'on reprochait à Bastien Vivès pour Petit Paul, c'est que son personnage, c'était un petit garçon fort bien doté par la nature, quoi, et qui suscitait des convoitises féminines. Et donc, il y a des associations qui ont poursuivi Vivès pour ça, et les requins marteaux.
Et si j'ai bien compris, avec cette modification de la loi, une chose qui a été jugée peut encore être jugée. C'est-à-dire qu'on fait chier les gens tout le temps, en fait.
Voilà. Petit Paul a déjà été devant les tribunaux en 2011, en 2018, mais rien n'empêche les mêmes personnes de reposer
leur... C'est hallucinant.
Ouais.
Et alors, je croyais qu'on ne pouvait pas rejuger une affaire jugée. Il y a quelque chose comme ça.
Apparemment, non. Oh. Apparemment, non, pas dans cette question-là. Et alors, l'article est intéressant parce qu'il rappelle que quand même, la liberté de création, bah, elle a quand même aussi des choses qui la défendent, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10, son application laisse quand même une place importante aux libertés fondamentales de l'expression. Et en tout cas, si on veut les restreindre, elle est très exigeante, quoi. Et donc, il y a vraiment un hiatus, quoi, un paradoxe. Poursuite perpétuelle et en même temps, un droit reconnu à la fiction et la réalité ne sont pas deux mêmes choses. Alors, c'est hyper intéressant.
C'est intéressant, mais quand elle remonte à quand cette modification de la loi alors qu'il fout la merde alors...
En 98, elle remonte à 98. Donc il propose en fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait une modification à nouveau de la loi, qu'elle soit révisée pour que cette confusion dangereuse là qui fait que la fiction et la réalité ne sont pas bien dissociées. Il faudrait qu'on modifie la loi, quoi, parce que ça, c'est une affaire parmi plein qui peuvent maintenant arriver, quoi.
Ouais,
tout et à c'est, fait. C'est intolérable. Enfin, c'est insoutenable, quoi. Comme et tu disais, la chose jugée, autrement, à quoi sert la loi?
Ça sert de juger? Voilà. Si on peut recommencer. Et on va recommencer.
Je remets une pièce.
Alors, c'est aussi un moyen, même si on sait qu'on va perdre, il suffit qu'on ait des sous, de demander des sous à quelqu'un bien à droite, par exemple, et ils sont nombreux parmi les milliardaires, on peut parler de Bolloré, mais quand même, pour vouloir vous donner des sous pour faire chier un créateur et l'empêcher de produire parce qu'il va passer son temps au tribunal.
Ouais, c'est ça. C'est une manière d'asphyxier aussi.
Alors, une dernière nouvelle peut-être.
Ouais, une joyeuse, non?
Ouais, moi je dis que c'est pas mal. C'est presque 50 ans, Métal Hurlant, vous savez que c'est de retour, hein, Métal Hurlant.
Bien sûr.
Eh bien,
sont-ils vraiment partis?
Ouais, sont-ils vraiment jamais partis? Eh bien, ils reviennent avec un hors-série spécial chat, et qui plus est, alors, moi j'aime bien les chats, et en plus, ce hors-série spécial chat a été confié à monsieur Jean-Pierre Dionnet.
Ah oui.
Jean-Pierre qui ?
Dionnet.
Que nous rencontrîmes à Canal B. Et c'était un grand, grand moment quand on l'a rencontré. C'est bien ce genre de client.
C'était vous au Gast.
Ouais, vous appuyez sur On.
Ronflot.
Voilà, et il parle, il a plein de choses à dire. C'est fantastique, c'est un monsieur charmant. Et je suis ravi que ce soit lui qui s'occupe de ça. Alors, vous savez, moi j'aime bien les chats aussi. Et dans l'actualité, j'ai trouvé une interview de Dionnet à propos de ce travail-là. Et il confie tout de même avoir voulu, à travers ce numéro, transmettre sa passion pour les chats, mais non à la manière des réseaux sociaux qui les travestissent en animaux mignons. Lui, pour Dionnet, il ne sait toujours pas s'ils sont bons ou mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont amoraux. C'est ce que j'aime chez eux. Ils ne posent pas les problèmes de conscience des humains. Dans le monde des chats, on est prédateurs ou prédatés, et on a toujours raison, c'est tout.
C'est bon ça.
Voilà, et voilà, si ça pouvait vous donner envie d'acheter ce hors-série, je crois qu'il est même en pré-publication. Non,
président.
Sur Ulule, et vous donner des sous, et puis vous pouvez même l'avoir, et peut-être qu'il y avait des cadeaux en plus. Voilà, pour les presque 50 ans de Métal Hurlant, Jean-Pierre de Niodet, pardon, et des chats. Une nouvelle un peu plus rigolote, et puis là, on est vraiment dans la BD, parce que c'est là où ils nous font chier, entre la mère Chiquirou, là, et puis vos ultra-cathos, là, qui font chier Vivesse, et ben, c'est la création, avant toute chose, qui est menacée, point.
Exactement. Donc il faut acheter Métal Hurlant, c'est ça?
Voilà.
Et ben alors,
voilà.
Consume, mais attention, consume or be consume.
Voilà.
Obligation.
sang.
The Slaves,
c'est
et bien évidemment.
Dis, c'est bien, c'est
avec Mike D. Avec Mike D, effectivement,
c'est un peu
du Beastie Boys.
Char,
ouais,
consume,
c'est ça.
Consume, prédateur ou prédaté.
Yes. On a eu du courrier.
Ah
oh, il est intarissable, ce petit Toff, ce petit Christophe.
Vous l'appelez Toff, vous allez avoir des ennuis.
Toff, hein. Ouais. Bon, on peut commencer à se tutoyer. Ça doit être au moins la troisième ou quatrième chronique facile qu'il
peut-être
nous envoie, ce petit gars.
Peut-être.
Alors, il veut nous parler d'un album, d'un western, si j'ai bien compris. Ça s'appelle Red Gun, épisode 1, La Voix du Sang. Ça paraît chez Soleil, avec Monsieur Godin, Massaglia et Fazio. Oh,
alors, comment vous écrivez La Voix? V-O-X ou...
La Voix, V-O-I-E.
Ok.
Du Sang. Oh. Alors, voici son coup de cœur. Alors, voilà ce que c'est. D'après ce qu'il nous écrit, on est en 1886, c'est la guerre de sécession, elle est terminée. Et donc, on est dans l'après, on soigne les cicatrices, tout ça du pays. Et on lance, pour un peu distraire et occuper, on lance un immense chantier, celui du transcontinental. Un grand chemin de fer, comme ça, qui doit traverser tout le pays, d'est en ouest. Donc, il y a des centaines de bonhommes qui se retrouvent à bosser, là, sous le soleil, ils dorment sous la tente, ils sont pas forcément super bien payés, mais ils travaillent à l'avenir du pays. Et dans ce chantier, on découvre le corps d'une prostituée éventrée. C'est un peu l'homme qui est chargé de la sécurité, un personnage qui s'appelle Casement, qui découvre ce meurtre, et c'est le deuxième dans les mêmes circonstances. Ça pue le serial killer là dans le campement, hein. Et donc il décide de faire appel à Terence Nichols, un chasseur de primes redouté. Et en fait, on va se lancer dans un polar bien noir, nous dit Christophe, dans un lieu un peu chaotique, tu sais, où trafic, prostitution, magouille, tout ça, c'est vraiment le bas-fond. Enfin, t'es dans un campement de mineurs, tu vois, de travailleurs, de mecs qui bossent sur le chemin de fer. C'est plutôt ambiance virile et barbecue, je dirais. Donc la violence, il règne pas mal, t'as de la criminalité, la justice est assez expéditive. Et donc c'est dans ce foutoir que notre personnage, Terence Nichols, va mener son enquête. Et ce que Christophe apparemment a bien aimé, c'est que les personnages ne sont jamais ni tout blancs ni tout noirs, quoi. Et en fait, il trouve que c'est intéressant que cette histoire qui est complète en un tome, cette espèce de polar western, ce qui est bien, c'est qu'elle, justement, elle n'est pas manichéenne dans son approche des personnages, ce qui est, en fait, finalement, on rend les personnages beaucoup plus humains et beaucoup plus réalistes, quoi. Parce que nous ne sommes pas tous blancs ni tous noirs. Et ensuite, il ajoute, surtout, ne changez rien, vous êtes les plus beaux.
Ah bien.
En tout, bah écoute, merci à toi Christophe de nous envoyer tes chroniques.
Faut qu'on pense à lui envoyer un briquet.
Enfin, j'en ai encore un, je crois.
En plus, vous fumez plus, vous.
Bah ouais, on va te trouver un vieux bic. On va te trouver un bic.
Si vous êtes comme ça, c'est pas dit que les gens ils aient vraiment.
On est une radio
envie.
Associative, nous. Ouais, oh, ouais. On tire la langue parfois.
On tire la langue. purée, un briquet, quoi, quelque chose, quoi.
En tout cas, merci à toi. Ça s'appelle Red Gun, La Voix du Sang, Godin Massaglia Fazio aux éditions Soleil. Alors, c'est le premier épisode de ce qui va être apparemment une série, enfin, une collection, voilà, de ces soleils. À vous, mon bon Roger.
Eh ben, je vais absolument pas rebondir sur vous, parce que ça n'a rien à voir.
Et c'est fort dommage.
Alors, ça, il peut faire du western. Je sais pas s'il en a fait, Monsieur Poe. Après tout, vous connaissez même mieux que moi.
Il a fait un peu une espèce de médiéval dans ses productions intérieures. Ses petits chiens dans les aventures.
Ouais,
ses
c'est
petits
vous
chiens
qui d'avant. Me l'avez fait découvrir. Je dirais qu'il débute le nom à Plume et Pinceau. Vous chroniquâtre des ouvrages de Poe. Toute une saga avec. C'était des chiens, je crois. Un truc comme ça.
Hein. Tu retrouves ces personnages canins que tu as dans l'album que tu as sous les yeux.
Voilà.
Ça avait été 5 épisodes, je crois. Je suis en train d'essayer de retrouver...
sa biographie.
Comment s'appelait cette série ? Ça va me revenir.
D'autant plus que là, chez Paquet, là où viennent de paraître les 5 drapeaux de Monsieur Poe, 1 sur 5, donc il y aura 5 tomes. Le premier tome qui s'appelle... tristement, et vous allez.
C'était la saga Atlas et Axis, je crois. Voilà, les deux petits chiens s'appelaient. C'était leur saga. C'était un truc un peu viking.
C'est ça.
C'était vachement bien.
Et là, comment on est dans le réalisme, oui et non, puisque comment on a toujours les mêmes personnages, c'est-à-dire que là, on est dans un monde d'animaux. On se croit.
Canin, très canin.
Canin, mais ça peut être ours aussi. Il fait pas dans le reptile, ça peut être pas des chats vraiment, des renards, des gens. Tous les personnages ont des têtes de chiens ou de très gros chiens. Allez, on va dire de genre canine. Vous avez raison. Parce qu'il y en a, ils ont quand même des têtes de renard quand même.
Dites ça parce qu'ils sont roux.
Ouais, entre autres, et puis ils ont un long museau.
Ne parlez pas de nez, ça peut déraper et vous créer des problèmes.
Monsieur Poe vient de se lancer dans une œuvre colossale, puisque donc 5 albums, au cours de laquelle, il va rendre hommage à son grand-père Vicente. Vicente a eu 5 vies, si l'on peut dire, puisqu'il va combattre sous 5 drapeaux différents. Il va combattre sous le drapeau républicain espagnol, puis il va combattre sous le drapeau français, puis sous le drapeau anglais. Il va être incorporé dans les travaux forcés en Allemagne nazie et il finira, emprisonné par les franquistes. Bref, une vie bien remplie. Vous imaginez ça. Et c'est pour ça que, intro de cet ouvrage, on trouve une photo très, très mignonne, je trouve très mélancolique, de Poe, le dessinateur, petit, en 71, qui tient, son grand-père, ils sont à la plage, parce que tous les ans, le grand-père louait un petit appartement, au-dessus d'une plage, voilà, en Espagne, et il invitait tous les petits-enfants. Et donc, ils étaient une tripotée de gosses, ça débarque comme ça, on débarque, et on découvre un univers où le grand-père, il mate pas les gamins, mais c'est, allez hop, on fait les sacs et tout. Après exercice, on va se baigner, machin, mais les gamins, ils sont ravis. Et l'après-midi, le grand-père raconte des histoires. Mais le grand-père est mort depuis, malheureusement. Tout a une fin. Et Monsieur Poe a donc décidé, à travers 5 albums, de nous retracer toute la vie de son grand-père. Et c'est à travers un travail hyper documenté, d'ailleurs, à la BD, déjà très copieuse, s'ajoute tout un cahier de notes historiques, de notes et recherches, avec des photos personnelles de Vicente, le grand-père, des documents d'époque, etc. Un travail incroyable, un travail de recherche incroyable. Et puis surtout, on découvre la vie de Vicente. Et cet album-là s'appelle donc Liberté, Égalité, Fraternité et Malheur à nous, mon pauvre Erwan, parce que c'est ce qu'on appelle la retirada, vous savez, et qui a amené ce qui survivait, ce qui restait de l'embout de l'armée républicaine, qui s'était pas rendu, à se rendre en France. Et malheureusement pour nous et pour notre mémoire, la France s'est comportée comme des goujats de la mort.
L'accueil n'a pas été optimal.
On les a entassés sur des plages, dans le sud-ouest, une catastrophe, des conditions...
Mais c'était que des rouges.
Conditions, c'est ça un peu, des conditions effroyables, avec en plus des autorités françaises qui laissent passer la propagande fasciste où on dit comment on incitait à travers des conférences les soldats espagnols à rentrer chez eux, ils seraient bien traités. Et là, il y a un bonhomme qui dit à Vicente, le grand-père, et il dit non, faut pas rentrer. Il dit les lettres sont censurées, ma famille écrit par code. Regarde, si tu rentres, tu pourras travailler avec tonton José. Or, mon tonton José, ils l'ont fusillé en 37. Voilà ce qui m'attend si je rentre. Mmh. Et en fait, quand les soldats espagnols rentraient, tous ceux qui étaient au-dessus du grade de sergent, ils les fusillaient. Voilà, faut le savoir. Alors, pour s'en sortir, eh bien, certains prisonniers espagnols décident de s'engager dans la Légion étrangère.
La Légion à les bras larges.
Ouais, et c'est assez effrayant. Et on voit donc les conditions de détention, parce que bah, tout cet album-là fait un aller-retour entre les conditions de détention de, comment dirais-je,
Vicente.
De Vicente et ses combats durant la guerre d'Espagne. En plus, il s'est engagé, il a triché sur son âge pour s'engager plus tôt que prévu. Après, comme il était malin, mais il a toujours été un bonhomme, il disait qu'il avait toujours été fasciné par l'armée. C'est-à-dire, quand il était petit, il habitait à côté d'une caserne, il allait voir les exercices, il connaissait tous les exercices par cœur. Ouais, c'est un soldat dans l'âme, le Vicente, et il va réussir à s'en sortir, mais à travers cinq drapeaux différents.
Ouais. Voilà. Non, ça a l'air super. Alors graphiquement, c'est très chouette, hein,
ouais.
C'est des personnages canins là, effectivement. On va loucher vraiment du côté de Walt Disney, première période noir et blanc au niveau dans le regard des personnages, dans le nombre de doigts qu'ils ont.
Ouais, 4.
Parce que c'est des animaux, quoi.
Bah,
c'est
oui.
Des animaux stylisés.
Et puis
c'est
chouette.
C'est du très beau dessin. J'aime beaucoup. Interlude musical.
Yes.
Alors, je crois que si on traduisait le nom du groupe, c'est les jeans pleins de pipi. Voilà.
Ça, vous dites ça parce que c'est un morceau de ma programmation, j'imagine.
Non, c'est à moi, c'est à moi. Et le morceau s'appelle Moving On. Moving On, un morceau qui dépote gravement, je trouve. Décidément, on est dans une ambiance de guerre. J'ai une adaptation d'un roman qui se passe pendant la guerre de sécession à vous proposer. C'est le dernier album réalisé par monsieur Steve Cusor, Le combat d'Henry Fleming, d'après un roman de Stephen Crane. Rappelons qui est monsieur Cusor. Ça fait un moment qu'on le suit, ça fait un moment qu'il a du succès. Il a commencé avec un album de quintette, puis il a explosé, je dirais, avec Oh Boys. C'était vraiment super, ça, Oh Boys. Encore plus avec les 5 branches de Canton Noir, c'était avec Yves Santé, je sais plus comment on dit. Là, il revient et il adapte en fait un roman donc qui date de 1895. Stephen Crane avait publié un truc qui s'appelait The Red Badge of Courage, qui évoquait donc le destin d'un jeune fermier qui s'était engagé, Henry Fleming. Il s'engage en 1863.
Est-ce qu'il a quelque chose avec la pénicilline, celui-là?
Absolument rien. Bon, ciné qui vient du monde rural.
Non mais voilà, peut-être qu'on les sent un vieux fromage.
Non,
autant pour moi.
Justement, non, tu vois, il est fermier, il vivait avec sa mère, mais il a décidé de s'engager malgré sa mère et donc de participer, de revêtir l'uniforme bleu, j'ai envie de te dire, et de partir combattre les sudistes. Donc il s'est engagé, et puis alors. Il voulait voir ailleurs, quoi. Ah. Et puis, en fait, il se retrouvera à attendre. Et là, on va le retrouver. Ça fait un moment qu'il attend. Alors, on comprend comment il s'est engagé, etc. Ça fait un moment qu'il attend. Et ça y est, la bataille que lui et tous les autres autour de lui attendent depuis si longtemps va arriver. Et à partir de là, Steve Cusor et puis Stephen Crane, donc, nous proposent de suivre toutes les étapes psychologiques que va vivre Henry Fleming autour de cette bataille. Avant, pendant et après. Parce qu'en fait, il va passer par tout un tas de phases. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un livre qui est à hauteur du soldat et où tu veux le suivre dans tous les rebondissements psychologiques qu'il peut avoir. Lâcheté, courage, folie guerrière, désir de reconnaissance, doute sur soi-même. Enfin, tu vois, il passe vraiment par tout un tas de phases selon comment se déroulent les choses, quoi. C'est vraiment, tu vois la psychologie d'un soldat. Alors, de la guerre de sécession.
Quelle bataille il est plongé?
Oh, c'est une obscure bataille. C'est pas Bull Run ou un truc, tu vois, c'est une bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est très fort. Parce qu'on est dans une guerre qui commence à être moderne, la guerre de sécession, mais qui est encore très napoléonienne, donc on avance en rang serré, tu sais, et puis les mecs à côté de toi tombent, t'avances, et puis après, pouf, avec ton truc qui fait plein de poudre, tu tires, quoi. C'est quand même ça, et t'as déjà une artillerie pourtant qui est performante, on tombe comme à Gravelotte, comme on dit. Et donc, c'est un peu particulier. En plus, le général, il est pas forcément très loin, mais il est sur la colline, tu sais, il est quand même, on sent qu'il y a ceux devant et ceux derrière, quoi.
Ah bah oui, mais si le général était devant, qu'est-ce qui se passerait?
Bah oui, bon monsieur,
je vous le demande un peu.
Mais tout ça, en fait, c'est aussi pris en compte, tu vois, le soldat et le rapport à l'autorité, à la hiérarchie, le regard des autres, parce qu'ils sont, c'est des gens, ils se côtoient depuis, enfin, eux, ils se côtoient depuis un petit moment, et puis ils sont tous un peu du même coin, enfin, tu sais, t'as vraiment des regards. Le regard de l'autre est hyper important, et c'est vachement bien. Et alors, graphiquement, bon, monsieur Steve Cusor, il est vraiment génial, et là, il a vraiment un dessin, je trouve, en plus, qui va très bien avec la guerre de sécession, parce que c'est de la poudre, c'est de la fumée, la guerre de sécession, tu vois, c'est hyper brumeux. Et en fait, ces scènes de bataille et ces noirs te rendent, et les choix de couleurs qu'il a fait, vraiment, tu es dans ces espèces de limbes pleines de brouillard où quand tu tires, tu sais même pas finalement si tu atteins le.
On est dans plein de nuances.
T'es un peu perdu.
Il n'y a pas de couleurs, on est dans plein de nuances, de noir, de blanc, de gris, de bleu.
Voilà, à chaque fois, il applique une couleur à une des séquences et qui donne une ambiance, alors de nuit, effectivement, ou alors.
D'un soleil,
mais un soleil un peu plombé, tu sais, il est un peu verdâtre. Il revient souvent dans les scènes de bataille, ça. Et t'as les plus bleutés quand c'est plus
quand
nocturne,
c'est la nuit,
etc. Ah ouais. C'est vraiment bien, et des nuances après, plus ou moins vert, plus ou moins jaune, et ça participe vraiment à l'atmosphère. Et puis je te dis, le graphisme est vraiment très très bon, quoi. Et ces jeux sur les noirs sont magnifiques, et avec ces couleurs presque psychédéliques par moment,
je dirais pas psychédélique, pour moi les couleurs psychédéliques c'est si y a
les moments de nuit, je les trouve presque fantasmagoriques, quoi.
Ah, fantasmagoriques, parce que psychédélique, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un acide, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait eu du rouge, du bleu, du vert, du jaune.
Et les choses seraient en train de fondre. T'as raison. En fait, ouais, t'as raison, c'est un peu con.
Ou alors peut-être qu'effectivement vous avez pris des produits et que là le jaune de Cuiseur vous apparaît violet.
Je te laisse voir juste par exemple, tu vois ces scènes de bataille, t'as vu les explosions, les aplats noirs, comment ils sont magnifiques, et l'ambiance regarde brumeuse, là tu vois juste une silhouette sur une espèce de clair-obscur, t'es presque dans du tu vois le docteur Caligari par moment, j'ai l'impression.
Ok, docteur Caligari, ok.
Ouais, c'est vraiment graphiquement c'est hyper fort, et je trouve que en plus c'est hyper intéressant, c'est vraiment écrit à hauteur de soldat, et tu comprends en fait que ça, c'est un truc où t'arrives avec l'histoire juste de soldat à rassembler tout ce que la littérature a pu par exemple produire sur la Première Guerre mondiale, pour faire un exemple français, à savoir aussi bien comment c'était horrible, la peur et tout ça, et puis t'as aussi des Ernst Jung qui te disent aussi que par moments c'était des moments d'exaltation et de folie guerrière qui t'emportaient, tu vois, et le personnage traverse toutes ces phases-là, psychologiquement c'est hyper bien. Donc c'est le dernier travail de monsieur Cuiseur, c'est paru chez Air Libre.
Air Libre,
ça vous fait tout de suite
Air Libre,
ça vous fait tout de suite du bel ouvrage, hein, l'objet est beau, je trouve la couverture très réussie. Vous pouvez pas, elle va vous taper dans l'œil. Le combat d'Henri Fleming, donc d'après Stéphane Crane, par Steve Cuiseur, chez Air Libre, donc chez Dupuis.
Collection Air Libre, vous l'avez bien vendu. En plus, vous l'avez bien vendu.
Il est super bon.
J'avais vu une interview avec quelques dessins, moins que ce que vous m'avez montré, et ça donnait effectivement envie de le lire. Mais bon, moi, vous savez, je suis fleur bleue, alors je veux bien lire encore le premier album, parce que c'est prévu en plusieurs albums, votre histoire.
Non, c'est un one-shot.
Un one-shot ? Ah ouais. Merde ! Parce que je me dis, s'il y a plusieurs albums, je suis sûr qu'au moins le premier, il ne va pas mourir. Je suis vraiment un trouillard, moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois pas. Bon, je te dirai pas s'il survit ou s'il meurt. Alors.
Ok, me dites pas, parce que déjà,
après,
si vous...
Après, je vais regarder ce que tu avais devant toi, là, si j'ai bien compris. Tu t'es gardé les nazis. Tu t'es gardé la BD avec les nazis.
C'est bien parce qu'on est au mois d'avril et qu'on va fêter...
Et si tu dis que t'es fleur bleue.
On va fêter, je sais pas si on peut appeler ça fêter, moi, les commémos guerrières.
Commémorer.
On va commémorer, vous avez raison. On va commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça va être un compte presque rond. On est en 2024, ah non, c'est pas encore tout à fait rond. On est 24 ou 25, je
ne sais. On est en 24, Roger, voilà. Putain. Alors, parlez-moi des acides.
L'acide lysergique, non, rien à voir. Les 100 derniers jours d'Hitler, d'après le livre de Jean Lopez, par Monsieur Pecot, un spécialiste, avec ses complaires dont on a déjà parlé, qui sont souvent avec lui parce qu'ils ont fait les monstres de guerre.
Ouais, il a plein de mecs qui viennent de l'Est.
Ouais,
faut pas faire chier, pas faire chier.
Faut pas faire chier Pecot. Puisqu'il bosse encore avec Monsieur Andronitch, Mavrich et Verneski. Non, Vernet. C'est paru aux éditions Delcourt. Ça, c'est vraiment, on va dire, tiens, l'ouvrage de circonstances, vous passez le bac, vous avez besoin de revoir ça. Là, vous avez résumé, en couleur, donc en sanguicolore, vous imaginez bien.
La chute de Berlin, c'est ça ?
Chute de Berlin, on allait...
Arrivée des soviétiques.
Arrivée des soviétiques, découverte des camps de la mort.
Le MeToo n'existait pas encore.
Voilà, vous
donc
imaginez
bien. Le fantassin va s'en donner à cœur joie.
Voilà, les dernières opérations militaires, le chaos, et puis surtout cette
suicide.
Espèce de... Les suicides de la population, de la population allemande, et puis les pendaisons à l'arrache, là, vous savez, si vous êtes soupçonné d'avoir déserté, cric, crac, croc, on a vite fait de vous pendre, et on pend pour un oui, pour un non, d'ailleurs même pour un oui
Gotter
et un non.
Rung, le crépuscule des dieux.
Ouais, tout à fait. Et c'est une véritable, on replonge dans cette catastrophe, la folie de l'autre dingo, qui, jusqu'au bout,
un végétarien, qui pouvait se douter?
Ouais, il paraît qu'il avait fort mauvaise haleine, tout végétarien qu'il est. Vous voyez, comme
c'est
quoi.
L'ail.
Je ne sais pas s'il mangeait beaucoup d'ail, mais en tout cas, végétarien, ça ne rend pas forcément ni aimable ni sympathique, je voudrais dire. Et en plus, il ne fumait pas et il ne buvait pas.
Il aimait beaucoup les animaux.
C'est vrai ? Ouais, exact. Bref, ça a été le chaos complet. Et ça nous rappelle comment un peuple, effectivement, peut suivre aveuglément les délires d'un fou.
Mais il y avait eu un film, La Chute ?
Il y a La Chute. Et comment... La chute, oui, ça nous rappelle plus La Chute, mais quand ils font référence à ces massacres de civils, vous savez, pour des gens accusés de collaborer, etc. Y a un film qui est sorti qui a été critiqué de façon très diverse, vous savez, sur un gamin qui a un ami imaginaire, et son ami imaginaire, c'est Adolf Hitler.
Ah non.
C'est mon ami imaginaire, je ne sais plus comment il s'appelle, ce film-là. Et c'est excellent. Et par contre, on voit effectivement cette espèce de terreur collective lors de l'arrivée des Russes, etc., la réaction des soldats. C'est plus à ça que m'a fait penser cet ouvrage. Donc, effectivement, rien d'original, ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans le dessin, on est bien clair. On est là dans le...
L'historique.
Voilà, l'historique, la retranscription d'un ouvrage de Jean Lopez, dont on nous dit dans le dossier de presse qu'il fait référence, Jean Lopez. Donc,
je crois qu'il est dans Guerre et Histoire.
Jean Lopez.
Ouais.
Donc s'il fait référence, il fait référence, et puis tout.
Bah, voilà. Ça veut dire que c'est du documenté.
Voilà. Et pour avoir.
Après, c'est comme regarder un bon film de guerre, moi j'ai envie de te dire, tu vois.
Ouais,
c'est aussi des fois.
Ouais, c'est quand même pas fun, hein. On va pas rire, hein. on rit même pas du tout. Et je vous dis, moi, ça m'a amené...
Cette fleur bleue, non?
Ouais, finalement. Et ça m'a amené à me replonger dans plein d'aspects, quand vous avez raison, hein, puisque à travers ça, il y a 10 films, hein. C'est les derniers avions de chasse, donc voilà, vous avez également...
Pont, je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, qui était un groupe de gamins qui devait partir repousser les Russes et tout ça.
Ou les Américains, c'est à l'ouest.
Les Américains, c'est ça. Et puis, il y a l'officier, comme c'est vraiment des gamins, il leur confie la mission de garder un pont, quoi.
Donc, il sait que normalement,
il se passera rien. Et en fait, ils vont perdre leur sergent, qui va se faire arrêter bêtement par des flics qui, justement, pensent qu'il est déserteur.
Ouais.
Ils se retrouvent tout seuls et ils se prennent prennent la mission au sérieux, quoi.
Voilà.
Et des Américains vont arriver.
Et donc, voilà. Et on ne joue pas à la guerre impunément.
Exactement. Ouais. Non mais c'est, enfin, moi je te dis, je peux être friand de ce genre de truc. Hein. Ça me déplaît pas.
Avec maintenant, ça nous replonge effectivement.
Fois qu'il y a pas de loup-garou.
Non, voilà. C'est ce que j'avais envie de dire aussi. On n'est pas dans les uchronies parce qu'à la fin, chez Delcourt, on ne sait plus.
Ah oui. Oui, exactement.
On commence à ne plus y voir les 100 dernières Judy Hitler avant que ces loups-garous, comme en Asie, sortent du bunker et repoussent la 18e.
Ranimés par des chamans tibétains.
Voilà. Et repoussent la 18e armée blindée soviétique.
Putain, on a un scénario, Roger. Interlude musicale.
Yes, ça va nous faire du bien après toute cette guerre.
Druids of the Gay Charrette. Tiens, des druides pour qu'on aille encore plus loin.
J'aime bien ce morceau-là.
C'est de votre programmation.
Bah, oui.
You know all my money's safe. devil made me do.
Druids of the Gay Charrette. Ouh, le Larsen de la mort.
Yes.
C'est votre programmation, c'est de votre faute.
Non, c'est normal, le bon vieux rock doit toujours l'arséner à la fin.
Oui. Un type qui s'appelle Eric Crick. Crick, vous pensez à quoi? Moi, je pense à une bière. Une bière à la cerise, mais je pense à une bière. On
ouais,
se dit, ça peut pas
on
être...
On peut essayer comment vous écrivez Crick. K
R-I-E-K.
Ah
bah exactement.
Oui. Ah bah oui. Eric avec un K.
Oui, en ah bah plus, oui, je regarde sa
bière,
photo.
C'est de la bière.
Je regarde la photo et ça pourrait être votre frère. Tête ronde, plutôt ovale, allez, on va dire. Un peu dégarni sur le dessus, barbe blanche fournie, lunettes. Lunettes épaisses.
Ah oui, c'est vrai, effectivement. Hein ouais.
C'est
ah.
vous, en fait, c'est ah. vous.
Ah. Oui,
c'est
ça vous, pourrait Eric être moi, Crick. Mais non, parce que je suis trop trouillard pour écrire ça, moi.
Il vient de faire paraître chez Hanspar un album vachement bien. Il s'appelle Lamar. Alors, ceci explique peut-être aussi cela. Il est néerlandais. Hein, ce monsieur. Connaît-on vraiment les Néerlandais? Qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qui leur fait peur?
C'est tant hein
franchement, on les connaît peu.
Ouais, on les connaît
et ben là,
peu.
C'est plutôt le côté, à mon avis, qui fait peur des Hollandais qu'on voit. En fait, vous me l'avez filé parce que quand vous avez vu la couve, le personnage féminin là, qui va être l'actrice numéro 1 de ce drame, de cette histoire entre horreur et psychose, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez pensé à Clove, vous avez pensé à Burns. Et voilà. Vous avez raison, il y a une filiation graphique qui est évidente. Et puis le thème, c'est vrai, ça pourrait être du Cloves ou du Burns, dans le sens où on va rentrer dans un monde pas tout à fait normal, puisqu'on va suivre un couple. Elle était peintre, lui, il était dans les affaires, dans l'architecture, en fait. Ils viennent s'installer à la campagne, ils viennent récupérer, en fait, une maison qui a été languée par un oncle au garçon, à l'époux. Elle est un peu paumée à la campagne, mais ils ont besoin de se construire. En fait, ils ont perdu leur fils, ils sont en plein deuil. Son épouse le vit vachement plus mal que lui. Donc, c'est un peu aussi une opération de sauvetage et de mise à l'abri. Et donc, on retrouve nos deux personnages qui sont l'héroïne, la numéro 1, c'est Sarah, c'est donc elle. Ils arrivent dans cette maison isolée, pas très loin d'Amsterdam, mais quand même en pleine cambrousse. Ils s'installent et ils vont découvrir qu'un arbre s'est écroulé. Et il y a une espèce de grosse mare noire, une grosse flaque qui était comme prisonnière sous les racines, tu sais, d'un seul coup qui réapparaît à l'air libre. Et tout autour, dans les bois qui... autour, il y a des dessins, tu sais, un peu à la Blair Witch comme ça, des trucs, des runes.
C'est là que je me suis arrêté.
Ouais, c'est exactement. Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir si cette flaque, c'est pas un passage vers une autre dimension.
À votre avis.
Avec des fantômes, et notamment avec un fantôme qui prendrait l'apparence du fils disparu.
Ben oui, c'est clair, c'est couru.
C'est couru. Mais là où c'est malin, c'est qu'en fait, Sarah, tu apprends très vite qu'elle a quand même un petit pet au casque naturel et qu'elle a arrêté de prendre son traitement.
Ah.
En tout cas, évidemment, tu sais que tu t'achemines vers pas forcément une happy end.
Ah, bah ouais. Déjà, de toute façon, la couverture, déjà, je m'en doutais.
Ouais,
je m'en doutais.
Moi, ça a eu l'effet contraire. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, ça. Mais c'est vraiment.
C'est intéressant.
C'est vraiment un bon récit d'horreur, quoi. C'est vraiment un très chouette récit d'horreur que nous propose donc ce néerlandais avec un nom de bière, Eric Crick. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que tu as ce jeu, quoi. Folie ou apparition fantomatique, quoi. Est-ce que c'est Sarah qui a un pet au casque ou est-ce que Sarah, effectivement, rencontre effectivement des fantômes qui se surgissent par. Ce passage, quoi. Parce que le précédent occupant de la maison, apparemment, était bien frappadingue. Donc, c'est super chouette. Avec un dessin, effectivement, bah voilà, Burns, Clove, tu l'as dit dès le départ. Bel ouvrage, d'eau toilée.
Ouais, d'eau toilée.
C'est toujours bien. C'est toujours chouette. Vraiment un beau bouquin, un beau one-shot. Découvrez une belle histoire d'horreur, vraiment. Un joli roman graphique de monsieur Eric Crick aux éditions. Hanspar.
Alors vous dites Hanspar parce que vous parlez couramment allemand, mais moi je dirais en tant que
Hanspach. Ouais, en tant que belge.
Ouais.
La Hollande est au milieu, allez.
Non mais je dis ça pour les comment ceux les
puristes
comme moi, qui croient que ils vont aller dans la librairie dont on terra le nom et ils vont demander
Lamar, ils vont demander Lamar de Eric Crick
aux éditions Hanspar et et ils vont les regarder de quoi.
C'est pourquoi.
Donc, voilà. Voilà, un petit dix.
Un dernier petit morceau, Roger.
Ouais.
Allez, un dernier petit morceau. Programmation Erwan, je crois que c'est mon tour. Oh, une vieillerie. La poubelle atomique de Ned, avec un morceau qui s'appelle Happy. Ned's Atomic Dustbin. C'est vieux, ça remonte, je sais pas, aux années 90. Ouais. L'album s'appelait Kill Your Television, je m'en souviens, il y avait deux bassistes et tout. Je crois que j'ai été voir ça en Allemagne. Bref, tiens, je le dédicace au mec de Unpoco Too Much.
Ah bien, voilà. On l'a pas vu, ah bah non, mais on n'est pas le bonjour.
Je crois qu'on était déjà vendredi, moi. Ah merde, faut retourner bosser.
Ouais,
ah, bon, putain, bah, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Voilà donc qui vient clore notre 475e émission.
Tout à fait. Thierry.
Les 500 à l'horizon, mec, les 500 à l'horizon, il faut qu'on tienne jusqu'à là.
Poutine nous laissera-t-il le temps? Il a dit que entre comment ces bases de missiles et Paris, c'était 1 minute 30.
Ouais, on est un peu plus loin. Allez, on a 2 minutes. N'hésitez pas à nous envoyer vous aussi des chroniques. Merci encore au petit Christophe, 7 ans et demi, de nous avoir écrit. Voilà. Ça fait toujours plaisir.
On t'enverra un briquet. Vide le premier, mais après...
Ouais, l'autre, il manquera la pierre.
Avec ça.
À la semaine prochaine. Bonne lecture. Tant qu'on a
le droit.